Chapitre 32. Le soleil pointait le bout de son nez lorsque je commençais mes préparatifs. Je n'avais pas dormi, mais mes traits tirés et mes cernes marqués allaient m'être bien utiles dans les heures à venir. D'abord mes cheveux, que je tirais violemment en arrière pour former la coiffure la plus stricte que je pouvais imaginer. Ni fond de teint, ni poudre, ni mascara. Le docteur Glenn se présenterait au naturel ce matin. Elle montrerait son vrai visage au monde. Étant donné le stress auquel j'étais soumise, je me disais que personne ne se poserait de questions sur ce nouveau style. Si j'avais l'air à deux doigts de craquer, eh bien, j'avais quelques raisons, non? Trois bocaux, disposés dans un carton à chaussures, et soigneusement rangés dans cette planque dont, précisément l'avant-veille, j'avais retiré ma propre collection de peau humaine. Dans le courant de la journée d'hier, le tueur à la rose avait aimablement reconstitué mon butin. La chair des victimes, cachée dans mon appartement. Les atrocités d'un tueur dans mon placard. Avait-il imaginé que je dormirais là? La fille de Harry Day, une fois de plus, pelotonnée au-dessus de précieux trophées? Il m'avait encore fallu 15 minutes pour trouver les caméras, ces petits yeux électroniques. Un dans mon dressing, une dans ma chambre, une dans mon salon. Voilà comment l'assassin avait appris l'existence de la planque. Il ne s'était pas contenté de visiter mon appartement. Il m'avait espionné. Et il avait dû venir plus souvent que je ne le croyais, pour installer un système de surveillance aussi sophistiqué. Comme la soirée était bien avancée, je n'avais même pas essayé de comprendre. J'avais simplement collé des languettes de ruban de masquage sur chacun des petits objectifs, pour les aveugler. Puis, je m'étais assise sur le canapé, armée de ma seule colère. Et j'avais attendu que le tueur vienne rectifier la situation. Je n'avais pas appelé la police, pas mis Didi Warren ou Phil au courant. Oui, j'avais des pièces à conviction chez moi. Des objets dont ils auraient certainement eu besoin pour traquer le tueur, que ce soit la collection de peau ou les caméras de surveillance. Mais cela n'avait plus d'importance. On ne jouait pas aux gendarmes et aux voleurs. C'était du sérieux, une affaire de famille. Je choisis ma tenue avec soin. Un pantalon marron basique, une chemise noire à manches longues, des mocassins marron foncé. La simplicité absolue. Ensuite, je remplis un sac d'un assortiment de vêtements décontractés. Puis je mis des billets de banque sur le côté avant d'ajouter du maquillage, des ciseaux et plusieurs bonnets. Pas de petit déjeuner. Je ne pouvais rien avaler. À 7h du matin, j'étais au téléphone avec McKinnon. Il fallait que je parle à ma sœur, séance tenante, à propos de notre père, si elle voulait bien par pitié donner son autorisation. Elle accepta que je vienne à partir de 9h, ce qui me laissait amplement le temps de me rendre au Walmart. Téléphone jetable, rasoir jetable, quelques autres objets de première nécessité. À la fin de mes courses, il me restait plus d'une heure à tuer. Ne sachant que faire, je restais dans le parking, à sursauter au moindre bruit. L'assassin m'espionnait-il en ce moment même? M'avait-il suivi depuis mon appartement? J'essayais de faire attention aux véhicules autour de moi, mais je n'étais pas l'agent 007. Je n'étais qu'une psychiatre brisée par le stress et l'épuisement, qui venait de prendre un aller simple pour l'autodestruction. Truquer ma chaussure prit plus de temps que je ne l'aurais cru. Enfin, la pendule afficha 8h30 et je partis vers le pénitencier, les mains tremblantes sur le volant. Avant d'entrer, je m'obligeai à respirer lentement et régulièrement. Il n'y avait rien là que je n'avais déjà fait un million de fois. Signer le registre, ranger mon sac dans le casier, saluer les surveillants, Chris et Bob, en les appelant par leur prénom, franchir les contrôles de sécurité, faire comme de coutume sonner la machine à cause de mon bracelet médical. Maria avait maintenant tellement l'habitude qu'elle ne prit même pas la peine de passer la raquette de détection. Une rapide palpation et voilà tout. Aurait-elle pu me fouiller de manière plus approfondie? Aurait-elle dû le faire? mais j'étais un visage familier, bien connu de tous depuis 6 ans, que je venais tous les mois. Ils me faisaient confiance et ils me laissèrent passer. Maria me précéda dans le couloir, jusqu'au parloir privé, où Shana et moi nous rencontrions habituellement, plutôt que dans la salle d'interrogatoire qui avait eu les faveurs ces derniers jours. Je poussai un petit soupir de soulagement devant ce deuxième coup de chance. Ma sœur m'attendait, les mains attachées devant elle, conformément au règlement. Maria se posta dans le couloir, d'où elle pouvait nous observer à travers la vitre, mais pas nous entendre. Ces parloirs, soi-disant privés, étaient généralement dévolus aux prisonniers qui s'entretenaient avec leur avocat. De l'extérieur, on ne pouvait pas entendre ce qui se disait dans le local, ceci pour protéger les droits des détenus, mais les surveillants pouvaient tout de même garder un œil sur eux. Ce serait pour moi le premier défi à relever. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'entrai dans la pièce. Je m'approchai de la chaise libre, m'assis. Ma sœur avait l'air d'avoir passé la même nuit que moi. Sans sommeil, pénible, agitée. Pour une fois, nous nous ressemblions presque comme 2 gouttes d'eau. Parfait. Elle m'observa d'un air désapprobateur. Tu as changé de look ? Ce n'est pas une réussite. Je ne répondis pas et consultai ma montre. 5 minutes, à peu de choses près. Sa perplexité s'accrut. Quoi ? Je t'ennuie déjà ? Parle-moi de Denis. Son visage se ferma, comme ça, devint parfaitement inexpressif. Les lèvres pincées, elle ne disait rien. Lui aussi, c'était un plan cul ? Elle haussa le sourcil, surprise de cet écart de langage. Je le connaissais à peine, ce gosse. Aveu du bout des lèvres, mais aveu tout de même. C'était le messager. Charlie Sgarzi se servait de lui pour préciser l'heure et le lieu de vos rendez-vous. Elle se détourna. C'est pour ça que tu n'as jamais répondu aux lettres de Charlie? Parce qu'il est davantage qu'un journaliste, c'est ça? Plutôt un ancien amour. Elle ne dit toujours rien. Tu couchais avec lui, continuai-je avec énergie. Avec Samuel Hayes aussi. Pas de réponse. J'ai rencontré la dame qui t'avait accueillie, Madame Davis. Tu as brisé sa vie, tu sais? Les voisins les ont rendus responsables de la mort de Denis, elle et son mari. C'était une bonne famille d'accueil, Shana, jusqu'à ton arrivée. Enfin, une réaction. Un regard buté, que je ne connaissais que trop bien. Et la vie de Trevor aussi, ajoutai-je posément. Elle eut un léger sursaut, surprise d'entendre ce nom. Un petit garçon de 5 ans, continuai-je d'une voix implacable, en accord avec mon humeur. Il avait eu de la chance la première fois, en atterrissant dans une bonne famille. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Tu lui consacrais du temps, tu lui lisais des histoires, tu lui faisais des dessins. Il t'aimait bien. Il était la seule personne de cette maison à croire en toi. La mâchoire de Shana se crispa. Et l'État l'a retiré de cette maison. Du jour au lendemain, Monsieur et Madame Davis, qui faisaient partie des meilleures familles d'accueil, sont devenus persona non grata aux yeux des services sociaux. Trevor a été transféré. Sans doute dans un de ces foyers où on le battait tous les soirs, si ce n'est pire. Ce n'était pas mon imagination qui me jouait des tours. Elle avait blémi. Tu te souviens de Trevor, n'est-ce pas, Shana? Tu t'étais projetée en lui. Il était l'enfant que tu te sentais obligée d'essayer de sauver pour te sauver par procuration. Comme ta codétenue, Christy. Et à une époque, moi-même. Laisse tomber, Adeline, dit-elle d'une voix où perçait la supplication. Mais tu ne te souviens pas de Denis, n'est-ce pas? De ce soir-là, de ce qui s'est passé avec lui. Tu ne te souviens de rien. Va-t'en! Elle se leva d'un seul coup, repoussa sa chaise. En cas de doute, fonce dans le tas. Je ne sais même pas pourquoi tu es venue. Je croyais que c'était fini, nous deux, à faire classer. Tu ne m'aimes pas, et je suis incapable d'éprouver de l'amour. Sauve-toi, Adeline, fuis-moi! C'est toi qui es vraiment trop conne. Recevoir ses propres mots en pleine figure l'arrêta dans son élan. « Mais qu'est-ce que... Assieds-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai une dernière question. Sais-tu qui est le tueur à la rose ?» Ma sœur me regarda. Ma gravité avait finalement réussi à percer sa carapace. Lentement, elle fit signe que non. « Mais il ou elle va venir te trouver, n'est-ce pas ? Ou plutôt venir me trouver ? Et quand ça arrivera, tu le tueras, comme ce surveillant, Frankie. » Ma sœur ne me quittait plus des yeux. « D'accord. Ensuite, je te donnerai ce que tu veux, Shanna. Ce que tu as toujours voulu. Comment sais-tu ce que c'est ? Je suis ta sœur. Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» Shanna me regardait. Je la regardais en retour. J'avais dit la vérité à Didi. Quand on avait affaire à ma sœur, l'essentiel était de ne jamais se faire d'illusions. La relation dépendrait toujours des avantages qu'elle en retirerait. J'aurais aimé penser qu'elle m'aiderait par amour, mais il était nettement plus probable qu'elle tiendrait sa promesse pour obtenir la seule et unique chose que je pouvais lui donner, enfin, après tout ce temps. Lentement, elle hocha la tête. « Croix de bois, croix de fer » demanda-t-elle d'une voix enrouée qui ne lui ressemblait pas du tout. « Si je mens, je vais en enfer, » répondis-je. Et je souris, parce que cette promesse de gosse qui fleurait bon la complicité entre sœurs, les jours d'été et l'innocence enfantine, me brisait le cœur. « D'une seconde à l'autre, » lui expliquai-je posément, « il va se produire un incident à l'extérieur. » Ça détournera l'attention de Maria. Il faudra que tu me sautes dessus, que tu me jettes par terre et que tu m'assommes. Ensuite, tu coinceras une chaise sous la poignée et tu éteindras la lumière. Ma sœur me regardait avec de grands yeux. Ça ne les empêchera pas d'entrer, hein ? Continuai-je. Le personnel est formé à ces situations. Ils feront sauter la vitre. C'est du verre blindé. Mais on peut quand même démolir le cadre à coups de marteau. Combien de temps ? Alerter la brigade d'intervention, s'équiper, se mettre en place. 5 à 7 minutes. Alors il faudra agir vite. Adeline. Mais elle n'eut pas le temps d'aller plus loin, parce que des cris retentirent dans le couloir, presque immédiatement suivis par les hurlements stridents d'une sirène. Maria tourna la tête vers le bout du couloir. Alors ma sœur bondit par-dessus la table et se jeta sur moi, épaule en avant. Une seconde, j'étais sur ma chaise. La suivante, je basculais en arrière avec elle. J'entendis un craquement lorsque je heurtais le mur. Me rendis compte que ma sœur me comprimait fortement la trachée de ses doigts entrecroisés. Mais naturellement, je ne ressentais aucune douleur. Encore des cris, beaucoup plus proches. Maria s'époumonait. Mais avec le vacarme de l'alarme, on l'entendait à peine. Puis l'obscurité se fit dans la pièce. Shanna avait actionné l'interrupteur. Elle coinça une chaise sous la poignée de la porte, renversa la table à la verticale, devant la fenêtre, pour boucher la vue. 5 secondes, 10, ma sœur était encore plus rapide que je ne m'y attendais. À terre, derrière la table renversée, j'attrapai en toute hâte ma chaussure droite. Vite ! Soufflai-je, encore hors d'haleine après ma chute. « Tends tes poignets. Adeline ! Mais tais-toi donc, écoute le numéro du casier. À la seconde où ils te laisseront partir, tu iras dans le hall d'entrée, vers ce casier. Je te donne la combinaison. Répète après moi. » Elle obéit, et j'arrivai enfin à extirper du bout des doigts la lame de rasoir qui dépassait à peine de ma chaussure, glissée entre la semelle et l'empeigne. Elle avait fait sonner les détecteurs de métaux à mon arrivée. Mais Maria était partie du principe que l'alarme avait été déclenchée comme d'habitude par mon bracelet médical. Je regardais les poignets de Shanna, retenus par d'épais liens en plastique. Ma petite lame n'était pas vraiment l'instrument idéal, mais je n'avais pas mieux. Je commençais à scier les liens, blottie contre ma sœur, épaule contre épaule, ses mains sur mes genoux. Depuis toutes ces années, jamais nous n'avions été aussi proches. Si proches que j'entendais son souffle court, que je sentais l'odeur aigre de sa peau. Petite, Nous étions nous serrées l'une contre l'autre comme ça, pour nous rassurer après une colère de papa. Nous n'étions que deux gamines perdues, qui essayions de survivre. Je sentis une nouvelle odeur, prenante, cuivrée, du sang. Je n'avais pas mal, bien sûr, mais je comprenais ce que signifiait cette sensation d'humidité croissante entre mes doigts. Le fait que j'avais de plus en plus de mal à tenir la lame. Je m'étais coupée. Peut-être même que j'avais perdu un bout de doigt, que je m'étais sectionné une phalange entière. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Je n'avais qu'à trancher les liens. Ensuite, ce serait à Shanna d'agir. « Arrête ça !» m'ordonna-t-elle à voix basse. « Ça ne marchera pas. Jamais je ne sortirai d'ici. Ça ne servira qu'à te faire coffrer. » « Mais je n'ai rien fait, » lui assurai-je. Je sentais que les liens commençaient à céder. « C'est moi la victime ici. » « Mais putain !»« Écoute, dans le casier, il y a mon sac à main avec mes clés de voiture. Une Acura blanche, 5e rangée sur le parking. Plus tard, il faudra que tu changes pour une autre, une qui ne sera pas recherchée par la police. Mais celle-là va te permettre de décoller. À l'intérieur, tu trouveras un sac avec plusieurs tenues de rechange, $1,000,000 en liquide, les clés de mon cabinet et un téléphone jetable. Ne m'appelle pas, je le ferai dès que possible. Encore du bruit dans le couloir. Une cavalcade à laquelle se mêlaient les pulsations de la sirène. Je comptais sur la diversion créée à l'extérieur pour ralentir la mobilisation. Pendant que les surveillants se ruaient en masse dans une direction, combien d'entre eux comprendraient qu'une seconde menace réclamait tout autant leur attention? Les liens cédèrent. Je me relâchai. Déjà exténué par cet effort. « Déshabille-toi !» lui ordonnai-je. « Vite, vite, vite !» Je commençai à enlever mon pantalon, puis retirai ma chemise à manches longues, mon soutien-gorge et ma culotte aussi. Je ne laissais rien au hasard. Je lançai le tout à Shanna. Le tissu était probablement maculé de sang, à cause de mes doigts mutilés. Et je me félicitais d'avoir choisi des teintes sombres, sur lesquelles les taches se verraient à peine. Bientôt, un peu de sang n'aurait plus guère d'importance. Shanna s'activait de son côté. Sous le coup du choc ou de la perplexité, elle cédait à mes injonctions et enfilait mon pantalon marron pendant que j'essayais pour la première fois une tenue orange prison. « Ne va ni chez moi, ni à mon cabinet, » lui dis-je. « Ce sont les premiers endroits où ils chercheront. Trouve-toi un coin où te planquer et ne bouge plus. » Il y a un sac avec des vêtements propres, des outils et des ciseaux. Change-toi, coupe-toi les cheveux, teins-les, fais le nécessaire. Quand les choses se seront tassées, je t'emmènerai à la maison. Tout ça pour attraper un assassin, gronda Shanna. Non. Pourquoi alors? Parce que j'ai besoin de toi. Pourquoi? Je me figeai. Dans l'obscurité, je sentis l'odeur du sang, la nervosité de ma sœur. Et un calme profond m'envahit. On y était. Le terminus de notre parcours. La destination vers laquelle nous avions toujours tendu. Ma sœur et moi, réunis, alors qu'une fois de plus, des hommes criaient et frappaient à la porte. « Tu es habillée ?» demandai-je. « Oui. » Je lui tendis mon bracelet médical, que j'avais fait glisser de mon poignet, pour qu'elle le passe au sien. Ensuite, mon nœud pour les cheveux. Tire-les en arrière, aussi serré que possible. Pendant qu'assise par terre, elle attachait ses cheveux tant bien que mal, je mis la dernière main à son déguisement, en trouvant son visage avec mes doigts sanglants. Doucement, timidement, je dessinai des lignes humides sur son nez, ses joues. J'effaçai ma sœur. À sa place, je créai une nouvelle Adeline ensanglantée. Je me rendis compte que c'était la première fois que je la touchais. Que je la touchais vraiment, depuis 40 ans. Nous avions parlé, assises de part et d'autre d'une table. Mais les contours de son visage, la bosse sur l'arête de son nez, elle me paraissait à la fois étrangère et familière. Normale, en famille. Un premier craquement. La vitre commençait à se desceller. Plus beaucoup de temps. « Tu es Adeline, » lui expliquai-je. Tu es une femme instruite qui a réussi dans la vie. mais qui vient de se faire violemment agresser par sa grande sœur, d'où le sang sur ton visage, ta démarche hésitante. Quand McKinnon te posera des questions, tu feras des réponses courtes, en modifiant ta voix autant que possible. Souviens-toi seulement que tout s'est passé en un éclair. Tu ne sais pas ce qui a déclenché cette crise chez ta sœur. Cette agression t'a prise au dépourvu. Non, tu n'es pas gravement blessée. Tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi pour te reposer. Mets-leur souvent le bracelet médical sous les yeux. C'est un détail qu'ils associent à moi, et sans qu'ils s'en aperçoivent, ça rendra ton déguisement beaucoup plus crédible. « Mais tu ne me ressembles pas !» se désespéra Shanna, dont le bout du nez touchait presque le mien. « Peut-être qu'avec ces vêtements, la coiffure, le visage en sang, il y a une chance que je me fasse passer pour toi, mais jamais ils ne te prendront pour moi !»« Tu as raison. Dernière étape. » Je levai le rasoir, posai le tranchant sur ma joue. « Ta mauvaise habitude de te mutiler va devenir ta planche de salut. Indemne, je ne peux pas me faire passer pour toi. Mais quand mon visage aura été réduit en charpie, je commençai à faire glisser le rasoir. Aucune douleur, même pas une sensation de froid, puisque la lame avait déjà été réchauffée par mon sang. « Attends !» dit Shanna en retenant ma main. Les surveillants criaient de plus belle et la fenêtre cédait à leurs assauts sans relâche. La vitre commençait à se fendiller. « Laisse-moi faire !» « Tu n'as pas assez l'habitude. Tu vas couper trop profond, ça laissera une cicatrice. Ça ne serait pas bien. » Elle se tut, prit une grande inspiration et me retira le rasoir des doigts. Elle se pencha vers moi pour mieux voir dans l'obscurité. Je sentis ses yeux rivés aux miens. Une seconde, deux, elle posa la lame sur ma joue. Trois secondes, quatre. « Tu peux y aller, » murmurai-je. « Rappelle-toi que je ne sentirai rien. » Ma sœur traça le premier sillon. Je sentis son souffle sur mon visage. Un soupir, à la fois de mélancolie et d'extase. Je me demandais si elle avait eu cette même expression dans notre enfance, quand elle m'avait taillé le bras au ciseau dans la famille d'accueil. Et si elle tenait parole en cet instant, si elle s'efforçait de ne pas couper trop profond pour éviter de me défigurer à vie. « Ça va ?» me demanda-t-elle d'une voix rauque, après la première balafre. « Encore ? Merde, Adeline ! Encore ? Il faut qu'ils y croient, Shanna. Pour toutes les deux, il le faut. » Nouvelle estafilade. Sur mon nez, le rasoir me faisait l'effet d'une mine de stylo, comme si quelqu'un dessinait sur mon visage. Puis, une sensation de pluie dégoulinante sur mes joues. « Le front ! » lui ordonnai-je. Les plaies au crâne pissent toujours le sang. Les yeux de ma sœur brillaient. Des larmes qu'elle retenait, une émotion qu'elle aurait voulu cacher. Mais elle ne s'arrêta pas. Je lui offrais la liberté. Pourquoi aurait-elle arrêté? Ensuite, elle franchirait la porte sous l'identité du docteur Adeline Glenn. Elle réaliserait son fantasme le plus cher et vivrait ma vie. Ma voiture, mon appartement, mon cabinet. Je lui aurais tout donné. Shanna Day, la plus célèbre meurtrière du Massachusetts, qui avait brisé la vie de Madame Davis, celle des Johnson, celle des Sgarzi, et qui avait persuadé trois hommes de se jeter dans les bras de la mort. Et qui pourtant avait volé au secours de ses codétenus, et qui pleurait encore un petit garçon de 5 ans. Ma grande sœur, le monstre que je relâchais dans la nature. Tandis qu'elle continuait à faire glisser la lame sur ma joue, je posai mes doigts sur la sienne. « Je suis désolée, » murmurai-je, sans trop savoir pourquoi. C'était moi qui étais en train de donner, et elle de prendre. Mais d'aussi près, je pouvais lire dans ses yeux que ça lui coûtait aussi. La honte de me faire du mal, associée à une jubilation inavouable, puisqu'une partie d'elle-même se délectait de cet instant. L'inné contre l'acquis, comme chez moi. Ma sœur dessina une 5e balafre et je sentis le goût du sang sur mes lèvres. Le dernier coin de l'encadrement de la vitre céda et tout le panneau s'effondra dans un fracas de verre. Les hommes en gilet pare-balles noirs nous tombèrent dessus, certains en hurlant sur moi, sur Shanna, pendant que d'autres écartaient brusquement Shanna, Adeline, et que j'entendais ma sœur crier, d'une voix suraiguë, pleine d'angoisse. « Aidez-la, je vous en supplie, aidez-la ! Elle s'est procuré un rasoir, elle s'est peut-être ouvert la gorge, aidez-la, par pitié !» Un grand gaillard surgit au-dessus de moi, visière baissée, face cachée, et hurla « Tes mains, connasse ! Montre-moi tes mains !» Je me contentai de sourire, en imaginant le spectacle que je devais offrir, avec ce sang écarlate au bord de mes dents blanches. Du grand Shanna, c'était certain. Alors on me releva, et on m'emmena sans ménagement. Pendant que ma sœur, le docteur Glenn, sortait en vacillant dans le couloir, encore dans la prison, mais déjà en route vers la liberté.